Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une réalité pour certains, un idéal pour d'autres, le grand amour, celui qui dure, qui résiste au temps, qui échappe à la routine, aux épreuves de la vie, à la fatigue, à l'ennui, aux scènes de ménage et aux tentations. Cet amour qui se construit, se bâtit avec le temps et tisse entre deux êtres une confiance, une tendresse unique, consolidée par une attraction vivace. Comment faire durer son couple? Le grand amour constitue-t-il un rêve, une utopie à l'heure où en France un mariage sur trois se solde par un divorce? Peut-on retisser un lien entre deux êtres que le temps a éloignés? Avec nous en studio, Liliane Holstein, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychanalyste spécialiste des relations familiales et du couple à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Votre livre « La magie du couple heureux, comment réenchanter son couple » vient de paraître aux éditions Josette Lyon. En deuxième partie de Priorité Santé, nous rejoindrons au Sénégal Oumou Li Kan, psychologue clinicienne à l'hôpital de Fan de Dakar. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Et bien sûr, le numéro de l'émission, vous pouvez nous joindre, 33 1 84 22 75 75, pour témoigner et pour poser vos questions.
RFI. Je vois mes pieds dans la glace.
Oui.
Tu les trouves jolis?
Oui. Très.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui. J'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi.
Mon derrière dans la glace.
Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses?
Oui. Très.
Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles?
Oui, tout.
Donc, tu m'aimes totalement?
Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement.
Moi aussi, Paul.
Un couple mythique du cinéma, hein, Brigitte Bardot, Michel Piccoli, dans Le Mépris, couple en perdition, filmé par Jean-Luc Godard. Liliane Holstein, lorsque Camille, hein, incarnée par une Brigitte Bardot aussi dévêtue que sublime, demande à son époux, le taciturne Michel Piccoli, de la rassurer sur sa plastique, ce n'est pas un caprice de petite fille, hein, vous l'expliquez dans votre livre, ça fait partie du fonctionnement normal d'un couple qui, même marié, a besoin de ses mots doux, de ses attentions, besoin sans arrêt d'être courtisé, d'être rassuré.
Oui, c'est vraiment un besoin fondamental qui nous vient presque, qui nous vient de l'enfance. Tous les enfants ont besoin naturellement d'être rassurés par leurs parents, notamment par la mère, en ce qui concerne la tendresse, l'amour, la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qui nous poursuit tout au long de la vie. Et même quand on va très bien, même quand on n'a pas de pathologie particulière sur le plan affectif, on a vraiment besoin de ça, et notamment par la personne que l'on aime. Et ceci tout au long de la vie.
Ce qu'on retrouve dans l'expression du langage courant, trouver sa moitié, ce que vous appelez dans votre livre la complétude, donc avec cette explication un petit peu psychanalytique, hein, la quête de la symbiose perdue avec la mère, c'est quelque chose que chacun, chacune ressent?
Oui, absolument, et c'est complètement normal, il ne faut pas du tout penser que c'est une pathologie, un symptôme névrotique, c'est complètement normal. On a tous besoin d'être réconfortés en permanence, c'est un besoin de reconnaissance. Nous ne sommes que des êtres humains avec toute notre complexité et nos grandeurs, mais aussi nos fragilités, et on a vraiment besoin d'être assurés en permanence, dans l'amour, pour l'amour.
Quelque chose finalement d'assez universel.
Totalement.
Votre livre fait l'éloge justement des mécanismes des couples qui résistent au temps. Vous disséquez les mécanismes. Liliane Holstein, quel mot vous retiendriez, c'est difficile à dire, pour ces couples qui durent. Le respect, vous parlez énormément de la tendresse.
La tendresse, c'est vraiment le point central. La tendresse, non pas seulement au niveau du contact physique, qui est absolument fondamental, mais aussi la tendresse dans la manière de se parler, dans les termes que l'on va utiliser, dans le ton que l'on va utiliser aussi, parce que tout le monde a pu en faire l'expérience. Quand on tombe amoureux, on dit qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et effectivement, quand on tombe amoureux, on parle avec un ton beaucoup plus doux. On fait attention aux termes que l'on utilise. Et on constate au bout de quelques temps que les gens font un peu moins d'efforts. Et qu'il y a une espèce de paresse ou d'asthénie, je dirais, en termes d'affectivité et de tendresse. Et la difficulté dans les couples commence à partir de là. Quand on parle moins gentiment, moins doucement à la personne que l'on aime, il y a des blessures narcissiques qui commencent à arriver au sein du couple. Des déceptions, des tristesses, des accrochages qui vont commencer. Parce que tout le monde a besoin de douceur. Je dirais, même les personnes les plus brutales, les plus brutes de décoffrage, fondamentalement, ce sont avant tout des enfants qui ont eu besoin de tendresse et probablement qu'ils ne l'ont pas eu au sein de leur milieu familial. Et ça reste quand même quelque chose qui reste en sous-couche dans leur inconscient et ils en ont terriblement besoin. Donc même une personne qui est compliquée, qui est difficile à gérer, lorsqu'on lui parle doucement et gentiment, elle peut déjà beaucoup changer dans son attitude.
Alors, ces couples qui durent, forcément, il y a cette dimension temporelle. Et quand on parle du couple, il y a un petit peu des schémas. Je ne sais pas si ce sont d'ailleurs des clichés. Sur les phases du couple, c'est 7 années, plus 7 années, je ne sais pas. En tout cas, il y a des événements très importants. Le premier, le plus évident, c'est peut-être d'abord de vivre sous le même toit.
Absolument.
Puis l'arrivée, pour certains, des enfants.
Tout à fait, parce qu'il y a une différence entre la phase extraordinaire du début de la rencontre, où tout le monde se sent pousser des ailes, on a l'impression qu'on pourrait gravir des montagnes pour séduire la personne aimée et désirée. Et puis, quand on commence à vivre ensemble, eh bien, il y a la réalité de la vie quotidienne. Et là, il va falloir s'habituer aux détails de la vie de l'autre, à ses fonctionnements, à ses petits travers, parfois à des choses dont on n'a pas du tout l'habitude. Et là peut s'en suivre certains accrochages qui peuvent être parfois très très invalidants pour le couple et parfois vraiment gêner la suite du couple. Donc il faut vraiment faire preuve d'une immense tolérance pour s'adapter en douceur, pour prendre le temps de s'adapter l'un à l'autre. Et ceci se fait bien sûr dans les deux sens, c'est pas un sens unique.
Et d'autres éléments extérieurs, des perturbateurs dont on n'est pas forcément conscient, peut-être l'un des plus évidents, ce serait la fatigue. On est épuisé, on peut mal se parler, on peut avoir moins d'attention et ne même pas se rendre compte que cette fatigue est en train de tout menacer.
Et ça, c'est vraiment le piège numéro un en France et dans les grands pays où l'on travaille avec beaucoup de stress, etc. Mais je pense qu'en Afrique, ça devient exactement la même chose, hein, parce que les gens travaillent énormément aussi. Donc forcément, il y a beaucoup de stress. Et ce stress et cette fatigue du quotidien vont venir vraiment napper en quelque sorte l'amour initial qui est là et qui ne demande qu'à émerger. Mais finalement, quand on est fatigué, c'est vraiment terrible d'ailleurs dans le comportement des humains, c'est que la fatigue noie tout, dépasse tout. Même les plus grands amours, même le plus grand désir, quand on arrive épuisé le soir chez soi, même si on a pensé à l'autre tout au long de la journée, même si on a désiré l'autre, et bien parfois on a juste une envie, c'est de faire les dernières choses que l'on doit faire dans sa maison ou avec ses enfants, et puis il reste bien peu de place pour la tendresse, les égards, la délicatesse l'un vis-à-vis de l'autre, et bien sûr et la sexualité.
Qui est aussi un élément très important, vous le soulignez.
Oui, oui.
Et ne pas confondre forcément une baisse d'attraction physique avec une baisse des sentiments. Ce sont des choses qui se réalimentent.
Absolument, totalement, oui.
Et quel gestes, quelles attitudes au quotidien peuvent permettre de réalimenter cette attraction ?
Eh bien, ce sont des petits gestes tout au long de la journée. Il ne faut pas penser qu'on va avoir du désir pour l'autre en 3 minutes comme ça le soir en allant se coucher. Ça, c'est quand même assez difficile. Ou en tout cas, ça limite beaucoup la relation d'amour et la relation sexuelle. Tout ceci se prépare tout au long de la journée. Alors, bien sûr, quand on travaille séparément ou loin l'un de l'autre, eh bien maintenant, nous avons des techniques extraordinaires grâce aux textos, aux SMS par téléphone, un petit mot, un peu... Voilà, il faut vraiment se manifester dans la journée avec un mot gentil, toujours dans la bienveillance, la tendresse et dans l'espoir de passer un bon moment ensemble dès qu'on se retrouvera.
Alors on va poursuivre cet échange, hein, si vous le voulez bien, Liliane Holstein, pour essayer de comprendre comment certains couples parviennent à déjouer les pièges de l'usure du temps. On va poursuivre avec les questions de nos auditeurs.
Les histoires d'amour, les histoires d'amour, les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général.
Priorité santé sur RFI.
Les histoires d'amour qui durent, c'est ce dont on parle aujourd'hui dans Priorité Santé. Nous sommes en ligne avec Joseph Alain. Joseph Alain, bonjour.
Bonjour, Priorité Santé.
Vous êtes en ligne de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, on écoute votre témoignage.
Oui, voilà. Ça fait de cela 17 ans exactement que je suis en couple avec mon épouse aujourd'hui. Et nous sommes mariés, ça fait une année. Alors, je voudrais savoir s'il y a des astuces pour éviter... la routine, l'usure, des choses comme ça. Donc voilà un peu ma préoccupation.
Joseph Alain, vous vous inquiétez pour l'avenir, pourtant cela fait déjà longtemps que vous êtes ensemble. Comment vous avez fait justement pour arriver à ce mariage après tant d'années et être toujours aussi déterminé à vivre ensemble ?
Bon, en fait, avant, on s'est rencontrés, on était jeunes, chacun était fini et... C'est ainsi qu'on a évolué. Et maintenant, nous sommes dans la même maison, nous sommes mariés. Et je voudrais savoir comment faire pour continuer à toujours s'aimer et à continuer notre amour pour longtemps.
Joseph Alain, cette question hein, sur la routine, votre réponse, Liliane Holstein.
Bonjour Joseph Alain, je crois déjà que vous avez trouvé des bonnes astuces pour faire durer le couple longtemps. Mais vous savez, il y a une chose qui est vraiment fondamentale pour le couple, c'est de cultiver la joie. La joie et la bonne humeur, et une manière de se parler toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, de s'intéresser vraiment à ce qui se passe dans la tête de la personne que vous aimez, d'être très très proche de cette personne, de la regarder, de voir s'il y a quelque chose qui la tracasse, qui peut la gêner, et d'être vraiment, vraiment très connecté à votre femme. Et de prendre grand soin de la tendresse, vraiment toujours des petits gestes de tendresse, de la délicatesse, c'est vraiment fondamental. Et c'est la clé vraiment, la clé pour que l'amour dure toujours. Le contact physique, ne jamais passer l'un à côté de l'autre sans s'effleurer, se regarder, se faire un regard complice. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et bien sûr, la gentillesse extrême, il faut qu'elle soit vraiment votre priorité. Dans un couple, l'un pour l'autre, on doit être la priorité de l'autre.
Joseph Alain ?
Oui, je vous écoute.
Donc, l'entretien de la flamme au quotidien par ces petits gestes qui sont d'immenses gestes pour faire durer le couple. On va maintenant prendre en ligne de Kinshasa, Betty. Betty, bonjour.
Bonjour.
Un autre appel de République démocratique du Congo. On vous écoute, Betty.
Merci. Bon, moi, personnellement, je pense que pour être heureux dans un couple, il faudrait d'abord qu'il règne l'amour. L'amour, c'est le point de départ. Mais cela ne suffit pas. Ensuite, il faudrait aussi qu'il y ait la confiance l'un envers l'autre. Parce que quand il n'y a plus de confiance dans un couple... il reste rien en réalité. Alors, je pense aussi que pour éviter la routine, il faudrait faire quand même des sorties à deux dans des endroits romantiques et tout. Et ne pas oublier les compliments. faut pas toujours faire des sales remarques, des critiques. Il faut aussi complimenter l'autre. Il faut qu'il sache que voilà, ce que mon chéri ou ma chérie aime, c'est ça. Voilà, il a besoin de moi, il a besoin de moi et tout. Pas toujours des critiques. Vous faites ça, ça j'aime pas, ça j'aime pas. À la fin de chose, on va se dire que bon, je ne fais rien de bon et ça évite d'être heureux dans un couple. C'est ce que je pense, moi.
Et vous pensez ça parce que c'est ce qui vous a manqué quand vous-même vous avez fréquenté certains garçons? Vous avez subi ce genre de choses? L'absence de compliments, des remarques désagréables, un manque d'attention?
Exactement, c'est ce qui est dit dans un couple. Je me suis séparée avec un homme dont je suis toujours amoureuse jusqu'aujourd'hui et vice versa. Ce qui nous manquait, c'est ça. Il n'y avait pas de compliments, pas de sorties. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'attention. Et on a fini par se séparer, mais on s'aime quand même. C'est pourquoi je vais dire que l'amour ne suffit pas.
Liliane Holstein, l'amour ne suffit pas, il faut autre chose.
Vous avez tout à fait raison, Betty. L'amour ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour rassurer. Ce qui rassure, c'est le fait d'avoir des manifestations réelles de tendresse et d'être réconforté au quotidien. Et c'est pour ça que juste dire bah, « tu le sais, je t'aime » ne suffit pas. On a vraiment besoin de l'entendre tous les jours, tout le temps, à chaque instant, et même dans les couples qui vont très bien. On a besoin d'être assuré. C'est vraiment un besoin de reconnaissance. À tous les âges, on a besoin de reconnaissance. On en a besoin dans l'enfance, mais on en a besoin en étant adulte et jusqu'à la fin de nos jours. Et vous avez tout à fait raison de dire que l'amour ne suffit pas. On a besoin d'être réconforté en permanence. Et alors bien sûr, vous évoquiez le fait que vous pouvez être critiqué, etc. Vous avez raison, c'est un tue-l'amour. Quand on est critiqué en permanence, eh bien c'est l'inverse de l'état amoureux. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on passe pas son temps à se critiquer. Au contraire, on magnifie en quelque sorte les qualités que l'on voit chez l'autre. Et bien souvent, justement, on oublie ce qui ne nous plaît pas. Et malheureusement, peu de temps, ou quelques mois après, ou quelques années, au contraire, c'est l'inverse qui va se produire. C'est qu'on va plutôt avoir tendance à stigmatiser toujours les points qui ne conviennent pas, qui ne plaisent pas. Mais ça, c'est quelque chose qui fait perdre confiance à l'autre et qui, finalement, petit à petit, tue l'amour. Il faut vraiment partir du principe que quand on est en couple, alors que l'on vive ensemble ou pas, c'est vraiment une décision d'être heureux. C'est une décision d'être amoureux et d'évoluer en permanence. C'est pas juste une association de deux corps, de deux esprits momentanément. C'est une décision pour toute la vie parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir autant individuellement, puisque chaque jour fait qu'on évolue, on change et on devient de meilleur. C'est bien pour ça que nous sommes sur Terre d'ailleurs. Mais aussi dans le couple. Le couple va nous permettre vraiment de nous dépasser et d'obtenir des choses de nous que nous n'imaginions pas. Pardon. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé ce livre « La magie du couple heureux » puisqu'il s'agit véritablement d'une transformation. Une transformation qu'on ne pouvait pas imaginer au départ. On développe une immense compétence à l'amour.
Merci beaucoup Betty pour votre appel. Juste une remarque, Liliane Holstein. Quand vous nous dites ça, certains répondraient « mais l'amour c'est l'instinct, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique ».
Ah non, l'amour ce n'est pas l'instinct, c'est la sexualité qui est un instinct. Mais l'amour, non, n'est pas un instinct, c'est quelque chose de beaucoup plus évolué, de beaucoup plus raffiné. C'est bien entendu, il y a un élan amoureux au départ qui est vraiment alimenté aussi par tout un tas d'hormones. Quand on rencontre quelqu'un, il n'y a pas seulement notre attirance, l'attirance que l'on a pour la personne, et on est aidé.
On par un processus biologique.
Par un processus neuropsychique qui on sécrète beaucoup d'hormones, notamment l'ocytocine, qui va vraiment favoriser la colle affective en quelque sorte et qui va nous aider à nous aimer, à rester ensemble pendant pas mal de temps.
Et on va encore rester ensemble pour une demi-heure. On va se retrouver, Liliane Holstein, dans 3 minutes, hein, juste après les informations, toujours pour parler de la magie du couple heureux. Et vous pouvez continuer à nous appeler. Le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé.
Caroline Paré.
On retrouve notre invitée en studio, la psychanalyste Liliane Holstein, pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée au couple qui dure, ce que dans votre livre vous décrivez comme la magie du couple heureux, ouvrage où vous parlez du miracle des couples à jamais amoureux. Miracle assez inexplicable, pourtant vous l'expliquez, si on se réfère à la fin de votre livre, vous faites une sorte de liste de ces gestes, de ces conseils pratiques, ces attitudes qui ravivent l'amour. Je vais en citer quelques-uns pêle-mêle. Dormir l'un contre l'autre, se parler en se regardant dans les yeux, dormir nu, s'apaiser, se consoler, s'embrasser sur la bouche. Et puis très concret, veiller à son allure, à son hygiène. En fait, tout compte.
Tout compte, mais effectivement, prendre grand soin de soi, de son corps, c'est une manière de respecter l'autre, de se respecter soi-même, bien sûr, mais de surtout respecter l'autre. Il n'y a aucune raison d'imposer des négligences de son hygiène ou de sa vêture à l'autre. Il faut toujours, je dirais que si on doit être beau, si on doit prendre grand soin de soi, c'est toujours en pensant à l'autre en priorité. Je dirais même avant de penser aux collègues, avant de penser au reste de la famille, toujours penser à l'autre en priorité. Comme si on allait le rencontrer chaque matin à nouveau.
Alors, vous nous parlez de ces couples qui durent et cette possibilité, même cet espoir, fait peur à certains, à certaines. Nous sommes en ligne avec Christelle. Christelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Libreville, au Gabon. Alors, vous allez nous parler de votre histoire.
Je suis dans une histoire. En fait, ça date d'un an. Avant ça, j'ai eu deux échecs. Un échec de 10 ans et un échec de 2 ans.
Deux ruptures.
Oui.
Et maintenant, vous êtes engagée dans une nouvelle relation.
Dans une nouvelle relation qui date il y a un an, mais en fait, la question que je me... En fait, j'aimerais avoir vos conseils parce que la relation dans laquelle je suis, c'est une relation que je peux moi-même qualifier d'épanouie, mais les deux personnages, ça veut dire que moi, je suis plus ouverte que la personne dont j'ai affaire. Et généralement, je me dis que peut-être que j'en fais trop. J'en fais trop. Très souvent, je fais des cadeaux. Très souvent, je fais des surprises. Donc, j'aimerais être juste dans le juste milieu pour ne pas déborder. Parce que, en fait, c'est une relation sur laquelle je tiens.
Christelle qui s'inquiète, en fait... peut-être de la réciprocité, du partage dans ce couple qui est en train de se construire après plusieurs échecs. Forcément aussi, quand on a connu des ruptures, on est échaudé, on a peur de l'avenir.
Oui, c'est tout à fait normal d'avoir peur, Christelle. Mais vous savez, il faut peut-être aussi faire attention à ne pas trop apporter à sens unique. Il faut toujours quand même veiller à ce que votre amoureux et des délicatesses aussi à votre égard et des attentions, c'est très important. Hein, il faut pas toujours que ce soit à sens unique, parce qu'il faut pas qu'il y ait un déséquilibre dans ce sens. Mais vous pouvez lui dire que vous attendez ses attentions, que c'est très important pour vous et que c'est quelque chose qui vous fera du bien, qui va vous rassurer. Et comme vous avez déjà, je pense, souffert dans vos deux précédentes relations, s'il vous aime vraiment, il va avoir à cœur de le faire.
Christelle, merci beaucoup. Vous avez une autre question à Liliane Holstein ?
D'accord.
D'accord, bah merci beaucoup Christelle, merci.
Au revoir, Christelle.
Merci beaucoup. Tout à l'heure, en première partie d'émission, vous disiez qu'il ne faut pas confondre proximité sexuelle et proximité affective, même si les deux sont liés, c'est pas indissociable. Et même au contraire, vous le soulignez, hein, les bienfaits de l'acte sexuel pour la vie quotidienne, déblocage d'énergie, également, ça favorise la joie de vivre. Et vous l'avez dit, la joie de vivre, c'est indispensable pour s'aimer.
Tout à fait, tout à fait. La sexualité est fondamentale, bien sûr, pour le plaisir que ça apporte. Mais la sexualité a une autre fonction extraordinaire dans notre organisme, c'est qu'elle permet d'évacuer le trop-plein d'énergie que chacune de nos cellules, qui sont des véritables petites centrales nucléaires, elles toutes seules, et on en a des milliards dans notre corps. Donc vous imaginez toute l'énergie qu'on génère à longueur de journée. Tous les matins, on est réveillé avec cette énergie qui va servir pour faire toutes les choses qu'on doit faire tout au long de la journée, y compris pour penser, pour faire fonctionner nos organes, etc. Et à la fin de la journée, il en reste toujours de cette énergie. Et cette énergie, si on la laisse à l'intérieur, comme ça, de son organisme, eh bien, elle peut provoquer tout un tas de désordres. Elle peut provoquer des énervements, des agacements, des gens qui se disputent tout le temps, qui s'agressent, parfois des maladies qu'on appelle psychosomatiques, c'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas dans la tête, eh bien, c'est le corps qui le montre d'une manière ou d'une autre. Ça peut même entraîner des dépressions, en tout cas, beaucoup de désordres. Donc, la sexualité a plusieurs fonctions, en plus, bien entendu, de pouvoir faire des enfants quand on le décide et quand on le désire. Mais donc, la sexualité a une valeur vraiment de régulation de nos énergies. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de la sexualité, d'une bonne sexualité toujours respectueuse, respectueuse du désir de l'autre, dans la délicatesse, dans la douceur, dans la grande gentillesse et délicatesse. Jamais de brutalité, bien entendu, et jamais rien imposé à l'autre.
Dans le consentement mutuel, on rejoint au Sénégal Oumou Kane. Bonjour.
Bonjour, Valérie.
Vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Fane de Dakar.
Oui.
Comment est-ce que les couples vous font part de leurs problèmes lorsqu'ils viennent consulter?
Généralement, ça passe par la consultation d'un enfant. Un enfant arrive, voilà, il a des troubles scolaires, troubles de comportement, ou hyménorrhésie, des choses comme ça. Et au décours des séances, on découvre que le problème majeur, c'est le problème des difficultés dans le couple. L'enfant ressent, revit de façon négative. Et il y a aussi des couples qui viennent, parce que tout simplement, ils ont des difficultés et tout. J'ai reçu une fois un couple qui, après une trentaine d'années, le mari a pris une deuxième femme. Alors la femme, bon, comme disait Madame Einstein tout à l'heure, elle commençait à s'évanouir. Dès qu'on lui parlait de polygamie, elle s'évanouissait, elle tombait dans les pots. Donc, on en a parlé beaucoup. Et quand elle disait, il y avait vraiment un malentendu, quoi. C'est-à-dire qu'autant elle souffrait de ce mariage de son mari. Et le mari lui disait, mais après, parce que c'était un couple très, très uni, très intime, qui faisait tout ensemble et tout. Et tout d'un coup, il y a cette brèche qui s'ouvre et qu'une deuxième femme vient, une truie vient perturber les choses. Donc, le mari lui disait, oui, on est resté pendant une trentaine d'années. Et lui, en tout cas, pour résumer, c'était comme s'il disait à la femme, tu as reçu un capital affectif qui doit te suffire. Maintenant, je peux aller ailleurs. Donc, il y avait cette rupture. Elle passait toute la nuit à laver des vêtements ou à repasser, en tout cas à s'occuper comme ça parce qu'elle n'arrivait plus à dormir.
Ça doit être particulièrement complexe, vous, en tant que psychologue clinicienne, de répondre à ce genre de choses parce que vous êtes confrontée à une situation concrète, à la tradition. Vous êtes là pour recevoir des couples et vous êtes face à une situation de polygamie. C'est très complexe.
Tout à fait. Très complexe. D'autant plus que le couple, je crois que c'est ça qui a motivé le remariage du mari qui était vraiment dans la dépression. Ils avaient perdu de façon dramatique un enfant. Donc, il y avait tout ça, quoi. Alors, la mère se trouvait, bon, sans soutien, déjà un peu perdu, et le mari qui allait tous chercher un soutien ailleurs.
Est-ce que vous avez l'impression, quand justement vous consultez, vous rencontrez ces familles, que cette pratique de la polygamie a tendance à décliner au Sénégal?
Ça décline. C'est-à-dire que ça décline dans le sens que bon, il y a d'abord moins d'épouses, parce qu'avant on se prenait quatre. Maintenant, compte tenu de la conjoncture, comme on dit, on ne peut plus prendre que peut-être deux, et ça s'arrête là. Et la difficulté majeure, c'est que bon, les femmes, surtout les jeunes femmes, ça s'exclut d'habiter avec leur co-épouse. Il faut que chacune ait sa maison. Donc, bon, il y a des femmes qui sont cadres, qui travaillent, qui ont la possibilité d'avoir leur propre logement. Et le mari n'est presque que l'invité, hein. Il vient quand il a tour dans cette maison et voilà. Et il y en a d'autres aussi où vraiment la polygamie n'est plus apaisée, parce que la femme, on voit vraiment une intimité profonde entre l'homme et la femme. Et la femme qui lui dit tu partiras mais tu reviendras. De toute façon, je crois que tout c'est basé sur l'humour, sur la plaisanterie. Les choses passent mieux, on supporte mieux. Et là, des couples vraiment intimes, avec des relations extrêmement profondes, c'est comme si la femme n'avait même pas peur que son mari prenne une deuxième épouse, parce qu'elle sait que bon, leurs relations sont extrêmement solides, profondes et tout. Et là où il ira, il reviendra au bercail.
Oumoulikane, est-ce que vous avez un message à faire passer, justement, par le biais de Priorité Santé, peut-être à celles et ceux qui vous écoutent?
Oui, enfin, le message par rapport à la polygamie, c'est extrêmement difficile à donner, parce qu'il y a les facteurs culturels. L'homme est essentiellement polygame, et il y a aussi les facteurs religieux. C'est-à-dire qu'on se cache derrière la religion en disant, oui, elle nous permet. Même quand les jeunes déclarent leur mariage, les parents du mari déclarent la polygamie. La polygamie à deux, on ne sait jamais. C'est comme s'ils, pour se prévenir, s'ils pouvaient se prémunir d'un éventuel accident ou je ne sais pas quoi. Mais bon, moi je me dis, ben, étant donné que ça fait partie, c'est un mal nécessaire, qu'on ne peut pas enrayer d'un coup, ça diminue, ça commence à disparaître. Mais c'est le versant autre, c'est le versant, comme on dit, du deuxième bureau. On ne prend pas un deuxième femme, mais on prend une maîtresse.
Une maîtresse.
Parfois, il y a des femmes qui poussent l'aberration au point de lui dire à son mari, tu l'épouses, elle n'a qu'à venir. Elle ne peut pas avoir les bénéfices de l'amante et éviter les servitudes du mariage. Donc, elle n'a qu'à venir comme nous, bon, dans l'arène du combat. Donc, bon, il y a ça. Moi, je me dis que tant qu'on peut vraiment ne pas porter préjudice aux femmes, ne pas porter préjudice aux enfants, parce que parfois aussi c'est au niveau des enfants qu'il y a un déséquilibre, le mari est tout à fait de l'autre côté, s'occupe des autres enfants et les autres bon, sont vraiment tout à fait dans un plan secondaire. Donc, tant qu'on peut être équitable et tout, comme on le donne dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, c'est inévitable, c'est là. Ce mari dont je vous parlais tout à l'heure, il disait à sa femme, ta mère a vécu dans la polygamie, et j'ai dit, mais ça c'est pas une raison, c'est justement parce qu'on a vu sa mère vivre dans la polygamie avec tous les affres de la polygamie.
Que l'on peut évoluer.
Et justement, on évite pour soi-même, on ne veut jamais d'être dans la polygamie. Donc, c'est surtout ça qu'on dit, ben, tes parents, tes grands-parents ont vécu ça, tu ne peux pas l'éviter. Donc, c'est vraiment l'argument malhonnête que les hommes servent à justifier leur polygamie.
L'argument de la tradition.
Oui, tout à fait. De la tradition.
Merci beaucoup, Moulikane. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Fan de Dakar. On l'entendait à l'instant, Liliane Holstein, l'une des menaces pour les couples dans la durée, c'est aussi l'infidélité. Et en fait, de l'infidélité, eh bien, vous en parlez assez peu dans votre livre. Pourquoi ?
Parce que comme le sujet du livre, c'est les couples heureux et les couples qui durent. En général, les couples qui durent ont pris grand soin justement à ne pas aller voir ailleurs. Et à rester dans cet espace de confiance absolue, parce que la confiance, c'est vraiment la recette clé pour qu'un couple puisse durer à long terme. Dès qu'il y a une blessure qu'on appelle narcissique, c'est-à-dire de l'image que l'on peut avoir de soi, quand un homme ou une femme vont voir ailleurs, inévitablement, ça génère une telle souffrance. Et je pense que même en Afrique, quand il y a ces mariages où c'est avec deux ou trois femmes, etc., inévitablement, la première épouse en souffre. Et même si la tradition, la culture fait que on s'y habitue, puisque c'est comme ça depuis des générations.
Et les enfants aussi.
Et les enfants aussi, absolument. Mais inévitablement et profondément, il y a une souffrance. Une souffrance comme l'idée d'être un peu délaissée parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on n'est pas suffisante. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment souffrir profondément psychologiquement. Et vous aviez raison, Mou, quand vous dites que très souvent les couples viennent exposer leurs difficultés à travers d'abord une consultation pour enfants, parce que les enfants sont vraiment, je dirais presque le symptôme des parents qui ne vont pas bien. Quand il y a des difficultés dans un couple, ce sont les enfants qui vont le montrer en première instance très très vite. Alors ils vont le montrer soit dans des désordres physiques, ils sont tout le temps malades, les bébés ont du mal à dormir, ils ont mal au ventre, ils pleurent tout le temps, ils se nourrissent mal, etc. Ou des problèmes plutôt de comportement, des enfants qui sont difficiles, qui sont capricieux, qui sont agressifs avec les autres, etc. Et quand on les voit en consultation, on se rend compte qu'il y a une difficulté dans le couple et que très souvent quand on arrive à discuter avec les deux parents et quand on arrive à leur faire comprendre ce qui se passe, eh bien l'enfant va aller extraordinairement mieux, je dirais quasiment du jour au lendemain. Comme si l'enfant était capable vraiment de modifier son comportement, vraiment d'un moment à l'autre, à partir du moment où les deux parents ont compris ce qui n'allait pas.
Une véritable éponge affective.
Totalement, hein. Totalement.
On va prendre en ligne, si vous le voulez bien, Mathieu, qui est à Libreville au Gabon. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
On écoute votre témoignage, Mathieu.
Alors, ça fait une huitaine d'années, je suis en couple. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un enfant qui a, 4 ans. Et j'ai l'impression que la relation, en fait, stagne. Donc, je voudrais savoir déjà quels sont les éléments qui pourraient me permettre de raviver, en fait, ma relation.
Un sentiment un petit peu de surplace de la part de Mathieu. Votre réponse, Liliane Holstein.
Alors, vous savez, vous parlez d'un problème clé dans le couple. C'est que très souvent, au moment de l'arrivée d'un enfant, il y a une sorte de ramollissement, je dirais, des efforts qui sont faits dans le couple. Tout simplement, déjà parce qu'il y a la fatigue de la grossesse, de l'accouchement. Ensuite, l'enfant prend beaucoup d'énergie. Et il arrive fréquemment que les mamans fassent un petit peu bloc avec l'enfant et s'éloignent un petit peu de la relation amoureuse avec leur conjoint. Et il y a une espèce de désespérance du conjoint à ce moment-là, qui peut parfois demander plus d'attention, et puis qui parfois, au contraire, va laisser aller les choses, ne pas revendiquer, laisser aller les choses. Et c'est ainsi qu'il y a une espèce d'éloignement progressif dans le couple. Alors, il n'y a aucune raison de s'éloigner parce qu'on a des enfants. Le couple doit vraiment devenir la priorité, même quand il y a des enfants. C'est très important.
Merci beaucoup, Mathieu. En ligne de Libreville, on va prendre un dernier auditeur. Cet auditeur, c'est Zachary. Zachary, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les plus de 7 milliards de mes voisins.
Vous êtes en ligne de Yaoundé au Cameroun, on écoute votre témoignage, Zachary.
En matière de couple, je crois que mes expériences devraient permettre à tout le monde d'avoir un bon couple. Le couple, c'est la réunion de deux personnes. Quand on parle de l'amour, c'est un mot qui renferme le désir, le mariage, l'amitié, surtout l'amitié, et tout ça, ça fait la passion.
Zachary, vous avez quel âge ?
85 ans.
Et une longue expérience avec votre femme ?
Oui, j'ai fait 54 ans avec ma femme.
Un couple qui dure. Et selon vous, qu'est-ce qui a permis à cette histoire de durer si longtemps ?
Premièrement, il faut faire la distinction entre l'homme et la femme. Les gens parlent de l'égalité, c'est plutôt une sorte de complémentarité. Il doit faire le partage. La femme est la maîtresse, le ministre de l'Intérieur. L'homme est à l'extérieur. J'ai dit à ma femme, quand je suis dehors, dès que je franchis le seuil, je suis dehors, ne me regarde pas. Dès que je franchis le seuil, je suis à l'intérieur, je deviens un ver de terre. C'est à toi de me protéger. Et c'est comme ça qu'on a vécu les 54 ans sans problème. À mes enfants, j'ai dit aux filles, que je ne veux pas voir le condom, je ne veux pas voir tout ce que vous voulez là. L'abstinence, c'est la meilleure façon de vous protéger. Et à toutes les filles, je leur ai dit, le plus beau cadeau qu'elles ont à offrir à leur mari, c'est leur virginité. Et elles m'ont obéi. L'égalité ne doit pas exister, la complémentarité. Ici au Cameroun, dans la zone forestière, on a le kwem. Dans la zone de savane, on a le taro. Vous ne pouvez avoir un bon taro que lorsque la femme a le pilon et le mortier. Et dans le couple, l'homme est le pilon, la femme est le mortier. Quand on respecte donc ça, il n'y a pas de problème. Surtout, il faut responsabiliser la femme. Tout ce qui est à l'intérieur relève d'elle. Avec cela, je vous assure, il n'y aura pas de problème.
Ce sont vos astuces, vos secrets pour la longévité, même si nous, à Priorité Santé, hein, on trouve que le préservatif, c'est quand même quelque chose de très très bien pour les histoires d'amour entre jeunes gens. Merci beaucoup, Zachary, pour votre appel. C'était le témoignage de la fin, 50 ans d'amour, avec une vision de la vie qui était propre à Zachary.
Oui, avec une certaine sagesse quand il parle de complémentarité. Hein, il y a beaucoup de sagesse, effectivement.
Merci beaucoup, Liliane Holstein. Puis, justement, pour avoir votre vision de l'amour, votre vision de ces couples qui durent, hein, je rappelle le titre de votre ouvrage, La magie du couple heureux, comment réenchanter son couple aux éditions Josette Lyon. Et d'ailleurs, ce message aux auditeurs, hein, de Priorité Santé, vous pouvez gagner trois exemplaires de ces livres. Pour cela, rendez-vous sur le compte Facebook de l'émission.
Priorité Santé sur RFI.
Et comme chaque lundi, on retrouve la chronique nutrition dans Priorité Santé. C'est avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler de la consommation de sel en excès, souvent en cause dans l'augmentation des cas d'hypertension. Alors, est-ce qu'il faut pour autant supprimer complètement le sel de ces aliments pour rester en bonne santé ?
Alors non, Caroline, on ne peut pas supprimer la consommation de sel, car il joue un rôle très important pour le fonctionnement de notre organisme. En effet, le sel est composé à la fois de chlore et de sodium, d'où son nom de chlorure de sodium, qui va par exemple réguler avec le potassium tout notre équilibre hydrique. Il joue aussi également un rôle indispensable pour les transmissions de l'influx nerveux. Et enfin, il ne faut pas oublier que dans les pays où le sel est iodé, il joue un rôle très important dans la fourniture d'iode pour l'organisme.
Alors, quels sont les risques liés à une alimentation trop salée?
Alors, il faut tout d'abord rappeler que l'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation maximale de 5 grammes de sel par jour, avec une répartition optimale d'un gramme par portion d'aliment. C'est lorsque le sel, en fait, est consommé en excès que viennent les conséquences néfastes sur la santé, en favorisant ou en aggravant l'apparition, par exemple, de l'hypertension artérielle, qui aujourd'hui, il faut le rappeler, la première pathologie chronique dans le monde, avec plus d'1,5 milliard de personnes atteintes. Et cette maladie, l'hypertension artérielle, si elle se détériore, on va dire, peut avoir des conséquences très graves, avec par exemple l'émergence de maladies cardiovasculaires comme les infarctus du myocarde, les maladies du cerveau comme les accidents vasculaires cérébraux, ou encore les maladies du rein comme l'insuffisance rénale.
Et quels sont les aliments riches en sel dans notre alimentation quotidienne?
Alors en premier lieu, il y a ce que tout le monde connaît, le sel visible, c'est le sel de table qu'on va rajouter dans nos aliments. Ensuite, il y a le sel que l'on trouve naturellement dans certains aliments, et surtout le dernier qui est maintenant très important, c'est le sel qui est rajouté dans les préparations industrielles notamment transformées. Et la profusion aujourd'hui de ces transformations industrielles rend de plus en plus difficile l'identification des aliments riches en sel. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, aujourd'hui la première, j'allais dire, source de sel, c'est ce sel caché que l'on retrouve dans les aliments qu'on appelle souvent ultra transformés. On peut citer par exemple la richesse en sel des cubes alimentaires, du concentré de tomates, des olives, des arachides, qui, quand elles sont salées bien sûr, les charcuteries, les viandes et poissons séchés, mais aussi les viandes et les poissons en conserve. On a aussi d'autres produits qui sont à surveiller, car même s'ils sont moins riches en sel, la quantité qu'ils contiennent est quand même importante, comme les chips, comme de nombreux aliments en conserve, les biscuits à pain d'épices, et ce qu'on oublie souvent aussi, les viennoiseries, comme les croissants par exemple, sont aussi riches en sel.
Alors Stéphane, quelles sont les recommandations pour adopter une consommation bien dosée en sel?
Alors, pour contrôler la quantité de sel consommé, moi j'aime bien retenir 5 conseils assez simples. La première, c'est toujours goûter son plat avant de leur saler, parce que si c'est suffisamment, si le goût est bon, c'est pas la peine de remettre du sel.
On
par
voit les
principe.
Gens qui ont ce réflexe, hein, même avant d'avoir commencé à manger, ils salent juste par habitude.
Exactement. Donc ça, c'est quand même important et ça coupe une grosse quantité de sel rajoutée en surplus. Il faut utiliser en priorité les condiments locaux peu salés, comme le sumbala, comme les oignons, l'ail frais, le piment ou encore le poivre pour donner du goût sans passer forcément par des aliments industriels qui eux vont être plus salés. Il faut éviter d'habituer, ça c'est central aujourd'hui, les enfants à manger trop salé tôt pour éviter de leur donner ce goût et de leur donner plutôt des bonnes habitudes pour essayer de renforcer un goût naturel. Il faut éviter de manger des aliments salés entre les repas, hein, comme les chips, comme la viande séchée. Et si on a une petite faim entre les repas, bah, c'est une bonne occasion pour promouvoir les fruits plutôt que des aliments salés. Et enfin, ce qui est peut-être le plus dur aujourd'hui, c'est dans les supermarchés d'essayer de voir un peu sur les paquets quels sont les aliments salés ou pas et de regarder du coup sur l'emballage où c'est dénominé en général sous la dénomination sel ou sodium et du coup de regarder par rapport aux apports journaliers recommandés que les produits soient pas trop salés. En faisant attention parce que l'étiquette, si elle indique en sodium, il faut savoir qu'un gramme de sodium correspond à 2,5 grammes de sel et pas se faire piéger.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Priorité santé touche à sa fin. Merci beaucoup à vous, Liliane Holstein, de nous avoir accompagnés pendant cette heure d'émission. Demain, avec Sandrine Mercier, Priorité santé consacrée à l'accès à la santé des plus pauvres à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère.
C'était Priorité santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.